On accueille tout de suite Philippe Martin, qui est docteur en santé publique, pour nous présenter l'expérience Sexpert, un programme d'éducation à la sexualité des jeunes par le numérique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Philippe Martin, ces mots, vous les aviez ? Crush ? Canard ?
Alors, oui, je les avais.
Ah, bon, ça va. Alors, vous pouvez être sur cette scène avec moi. Est-ce que vous voulez ce micro ?
Là, normalement, c'est bon, vous m'entendez bien ?
On vous entend très bien.
Donc, oui, j'avais ces mots, puisque c'est les mots que les jeunes nous communiquent quand on intervient auprès d'eux en lycée. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis chercheur en santé publique à l'INSERM, donc l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation à la sexualité des jeunes et vous parler plus précisément du projet Sexpert, qui est un projet d'éducation à la sexualité par le numérique qu'on a développé depuis maintenant des années, à partir bien sûr des besoins des jeunes qu'on est allé rencontrer sur le terrain. Donc, pour restituer un peu cette riche journée qu'on a vécue ensemble, on va faire un petit test et je vais vous poser les questions que je pose aux jeunes de manière générale. Et la première question, donc vous pouvez lever la main pour intervenir, mais quelles sont les préoccupations générales des adolescents et des jeunes adultes selon vous ? Est-ce que vous avez des idées ?
L'argent.
Il y a l'argent, quoi d'autre ? Apparence. L'avenir. Ok. Alors j'entends ne pas pouvoir se connecter sur les réseaux dès qu'on n'a plus la 5G, c'est une catastrophe. Alors du coup, quand on a interrogé des adolescents un peu partout en France, pas uniquement à Paris, puisque je sais que je me déplace un petit peu partout, il y a l'argent, ce qu'ils appellent parfois la moula. Il y a le sommeil, très important, 8 heures de cours par jour, c'est énormément de travail pour eux. Il y a Parcoursup, on ne l'a pas dit, mais Parcoursup, c'est vraiment un moment très difficile pour eux. Ils parlent beaucoup d'argent, la bourse au mérite, l'avenir, la vie professionnelle, réussir les études. Donc on voit que c'est des enjeux beaucoup autour de l'avenir, l'autonomisation, les tâches, les responsabilités que le monde adulte peut leur imposer. On ne voit pas trop de sexualité là-dedans. Vous êtes d'accord ? Si je vous pose la question, que vous évoque la vie affective, relationnelle et sexuelle, ce qu'on appelle la santé sexuelle, normalement, si vous avez écouté aujourd'hui, on a la réponse. Je vous écoute.
Alors, vous n'avez pas écouté.
On n'a pas dormi pendant la sieste. Hein. Le bien-être, bien-être lié à la sexualité, par exemple. Quoi d'autre ? La puberté, changement du corps, physique, psychique, émotionnel. Oui ? Le consentement, pas uniquement le oui, le non, mais aussi le consentement parlé, vécu, corporel. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Alors, pour les adolescents de 15, 16, 17 ans, revient le terme le sexe, les MST, l'angoisse, la peur. Ouh. C'est dégoûtant pour certains. On a également la contraception, le mariage, les hommes, l'amour. D'autres jeunes nous parlent de relations toxiques pour beaucoup. Certains abordent la question du consentement. Ils le connaissent, le consentement. Ils l'apprennent à l'école pour beaucoup. Il y en a qui mettent à fuir aussi, montrant les sujets tabous. Certains adolescents ne se sentent pas concernés par les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. Enfin, que vous évoque l'éducation à la sexualité. On en a parlé, ça permet de faire la transition avec les interventions précédentes. Connaître les risques. Le fait que ce soit tabou. Protection. Donc on risque, protection, passer de l'approche par le risque vers une approche peut-être plus protectrice, positive. Quand on leur parle d'éducation à la sexualité, il y avait une autre proposition peut-être avant que je dévoile.
On avait une autre proposition.
On n'en parle pas assez à l'école. Un des derniers chiffres, moi j'ai fait partie du groupe de travail sur la stratégie nationale de santé sexuelle Et le seul indicateur qu'on arrive à produire sur l'éducation à la sexualité, c'est le fait qu'il y a uniquement 25% des écoles, voire moins, qui arrivent à mettre en place une séance d'éducation à la sexualité par an dans leur classe de collège ou de lycée, ce qui montre en fait la disparité dans les interventions d'éducation à la sexualité à ce niveau-là. Donc les jeunes, quand on les interroge, ils nous disent « ce n'est pas assez réel, c'est les MST ». Être éduqué, c'est de la gêne parfois, ce qui montre aussi la difficulté d'aborder ces questions-là dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité à l'école. Quand on en discute avec eux des enjeux d'éducation à la sexualité, pour certains, il est compliqué d'aborder ces questions dans le cadre des écoles, des classes, et notamment parce que ça parle de sujets intimes, parfois indicibles. Je vous ai mis le nuage de mots le plus soft que je reçois en intervention, puisque ça, normalement, c'est des QR codes qu'on leur fait scanner de manière anonyme et que, bien souvent, ils exposent leurs autres camarades, leurs pseudos sur les réseaux sociaux. Ils s'insultent parfois sur les écoles, ce qui montre à la fois à quel point la sexualité peut être aussi source de risques, mais aussi source d'éléments plus sociaux liés à la sexualité. Et enfin, selon vous, quel thème devrait être abordé durant les séances d'éducation à la sexualité? La protection. Qu'est-ce qu'on entend par protection? Ouais, donc il y a la protection face au comportement sexuel dit à risque. Il y a aussi le consentement, la communication positive. Le respect, la législation, la question des droits sexuels et humains aussi qui intervient beaucoup. C'est des choses qui existent mais qui ne sont pas forcément abordées dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité. Et quand on questionne les attentes des jeunes sur les questions d'éducation à la sexualité, beaucoup nous parlent de thématiques autour du consentement, des comportements, parler aussi d'appréhension de la sexualité, de partage, de communication. Pour eux, ils ont besoin aussi de voir les aspects positifs liés à la sexualité, la vie affective. On parle aussi beaucoup de domination masculine, de rapport de genre. C'est des choses dont les jeunes peuvent avoir conscience, mais dans les pratiques, dans les actes, ce n'est pas toujours le cas. Quand on pense adolescence et jeunesse, on pourrait penser cette période comme une période de transition, d'autonomisation, où intervient la puberté, l'évolution du corps, l'entrée dans le monde adulte. Et la période de la jeunesse, c'est une période où on doit répondre aux attentes de la société avec l'acquisition de différentes compétences de vie. C'est durant cette période qu'interviennent différentes sphères de socialisation, avec des sphères de socialisation qui évoluent au niveau des proches, des familles, des amis, des pères. Il y a une évolution des liens sociaux, notamment avec les parents, avec de nouvelles relations sociales, d'où l'importance du groupe de pères à ce niveau-là. C'est aussi une période de construction identitaire au niveau individuel, mais aussi collectif. Et se construit, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question de l'identité digitale. Pour certains jeunes, ils construisent leur identité digitale en plus de leur identité qu'ils pourraient avoir dans la vie hors ligne, hors numérique. Et cette identité leur est parfois tout aussi importante que leur identité en vie réelle. C'est aussi une période de construction de l'identité de genre et sexuelle constitutive des individus en termes de ressenti de soi, avec l'émergence de différentes identités de genre et de sexuelles qui sont plurielles, avec la notion de fluidité et de mouvement qui intervient notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Les adolescents et les jeunes adultes sont marqués par des enjeux de vie affective et sexuelle, où interviennent de nombreux sentiments amoureux, amicaux, avec l'émergence des désirs, des attirances. C'est aussi une période de préparation et d'entrée dans la sexualité qui peut intervenir à différents moments de l'existence. Selon vous, quel est l'âge du premier rapport sexuel chez les jeunes? 14 ans? 17 ans? La dernière enquête qui a été publiée en 2023, c'est l'étude des contextes des sexualités en France menée par l'INSERM et Nathalie Bajos. Et lorsqu'on étudie la médiane, c'est-à-dire la moitié des jeunes qui ont eu un rapport sexuel et ceux qui n'en ont pas eu, le premier rapport sexuel intervient à 18 ans, Donc, c'est-à-dire qu'avant 18 ans, la moitié des jeunes n'ont eu aucun rapport sexuel. Cette enquête, elle a été menée par échantillon aléatoire, c'est-à-dire qu'on a constitué un échantillon représentatif de la population générale et on a enquêté auprès de milliers de personnes qui ont indiqué avoir eu un premier rapport après 18 ans. Donc la moitié qui ont un premier rapport après 18 ans. Quand on pense jeunesse, on pourrait penser la santé sexuelle autour des risques. Il y a une augmentation du nombre de déclarations des violences sexuelles et sexistes. Il y a les risques qui ont été évoqués autour du sexting, autour des grossesses non désirées, l'augmentation des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. C'est des chiffres de santé publique qui sont dans les différents rapports, dans les différentes études et qui existent. Quand on pense la santé sexuelle des jeunes, on pourrait l'aborder dans une démarche plus positive, plus protectrice, autour de la contraception, du consentement, de l'usage des moyens de protection. Mais si on doit parler de vie affective, relationnelle et sexuelle, on doit en parler de manière plus globale, intégrant la notion des droits humains, du plaisir sexuel, des identités de genre et sexuelles. Ce n'est pas moi qui apporte cette définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé sexuelle comme le bien-être lié à la sexualité dans toutes ses dimensions physiques, sociales, mentales et émotionnelles. Il est recommandé par nos chères institutions, que ce soit l'UNESCO, le ministère de la Santé, de l'Éducation, de faire de l'éducation complète à la sexualité, c'est-à-dire de ne pas juste informer des risques, mais d'avoir une approche compréhensive quand on fait de l'éducation à la sexualité. Et face à l'avènement du numérique, il est recommandé d'utiliser les nouveaux outils de communication pour faire de l'éducation à la sexualité. Sauf que ça pose des enjeux de faisabilité, de développement et de mise en œuvre de ces dispositifs-là. Ce qu'il est recommandé également, c'est d'avoir une approche participative, interactive, holistique, positive. Sauf que dans la réalité, il est plus complexe de le mettre en place. On veut sortir finalement des systèmes très descendants de transmission d'informations pour faire plus d'horizontalité. Sauf que dans les réalités, ça reste plus complexe. Donc face à ce rationnel, nous à l'INSERM, on se positionne vraiment dans l'étude des besoins populationnels pour développer des actions d'éducation à la sexualité qui soient plus proches des attentes des jeunes et ce pour les mettre en œuvre à la fois dans les lycées, dans les collèges, mais aussi par le numérique. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque le but c'est de, à terme, rendre des connaissances scientifiques sur les dispositifs d'éducation à la sexualité, notamment par le numérique. C'est dans ce cadre-là que j'ai développé la recherche-action Sexpert, qui a pour but de développer une communauté en ligne pour l'éducation à la sexualité. On est parti du constat qu'Internet, le numérique, étaient des outils en constante évolution, largement plébiscités par les jeunes, qui peuvent avoir des accès à des informations diversifiées, parfois abondantes, avec des enjeux de fiabilité et de validité des informations. Mais sur Internet, sur les réseaux sociaux, se forment également des communautés en ligne où les jeunes se retrouvent autour d'intérêts, de sens commun. Ils pourraient se retrouver autour de ces questions de sexualité, que ce soit sur des spécificités de vie sexuelle, d'orientation sexuelle, d'identité de genre ou encore de vécu et d'expérience. Notre question de recherche qu'on se pose dans Sexpert, c'est est-ce que mettre en place une communauté en ligne faite par et pour les jeunes, ça représente une action qui serait intéressante pour faire de l'éducation à la sexualité des jeunes. Et donc, pour faire cela, on a monté un groupe de recherche à l'INSERM, mais aussi avec Santé publique France, pour développer finalement cet outil. On a été financé par l'Agence nationale de la recherche pour développer ce dispositif qui est maintenant en ligne depuis 2 ans. On a fait une première analyse de la littérature pour savoir un peu ce qui existait dans la littérature internationale. Est-ce qu'on utilise déjà le numérique pour faire de l'éducation à la sexualité? Ce qu'on a découvert, c'est qu'il existait un très grand nombre de dispositifs. Des sites internet, des serious games, des applications pour suivre sa contraception. Il y avait même des comptes qui étaient créés sur les réseaux sociaux pour faire de l'éducation à la sexualité. Ensuite, on est allé questionner les professionnels de la recherche et de la santé sexuelle pour savoir un petit peu quels étaient les enjeux de développer une action d'éducation à la sexualité par le numérique. La première chose que les professionnels nous ont dit, donc c'était des chercheurs, des sexologues, des professionnels de santé, on avait des sociologues également qui ont participé à l'étude. Ce que ces participants nous ont dit, c'est qu'il fallait penser le numérique dans une complémentarité des pratiques qui pouvaient exister en vie physique, c'est-à-dire que le numérique se complète avec ce qui peut exister déjà ou non sur le territoire. Ce qui leur a semblé important pour ces professionnels, c'est de s'adapter aux usages préférés des jeunes. Et ils ont mis en avant l'obsolescence rapide des usages numériques des jeunes, d'où la difficulté de s'adapter et de construire une éducation à la sexualité sur le sujet. Ils ont mis en avant également les différents niveaux de littératie que pouvaient avoir les jeunes. La littératie, c'est la capacité à rechercher, trouver, intégrer, appréhender et réutiliser l'information qu'on trouverait en matière de santé sexuelle. Et donc, selon les origines socio-économiques, socio-démographiques des individus, les jeunes n'auraient pas les mêmes niveaux de littératie et n'auraient pas les mêmes points de départ pour traiter et s'approprier de l'information de santé sexuelle. Et enfin, ces professionnels, ils ont mis en avant le besoin d'être inclusifs, c'est-à-dire de prendre en compte la diversité des profils, des parcours jeunes, bien au-delà de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle. J'essaie de vous résumer un travail de recherche en 2 minutes. J'espère que le challenge est rempli. Vous avez en bas de la présentation les publications scientifiques qu'on a réalisées sur le sujet, qui sont accessibles gratuitement, donc vous pourrez les consulter si vous le souhaitez. Ensuite, on est allé voir les jeunes, ceux qui étaient directement concernés par les dispositifs qu'on voulait leur créer, puisqu'on peut parler des jeunes très largement. Si on ne les questionne pas sur ce qui pourrait leur plaire en matière d'éducation à la sexualité, ben, nous on pense qu'on pourrait passer à côté de certains sujets, certaines thématiques et surtout certaines fonctionnalités numériques qui leur seraient intéressantes. Les jeunes, on a interrogé donc des jeunes de 15 à 24 ans pour des raisons éthiques et réglementaires. On ne pouvait pas les interroger plus jeunes, donc ça on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais ce que les jeunes nous ont dit, c'est que pour eux, il était important d'aborder tous les sujets de la santé sexuelle, au-delà de la simple information sur les risques, sur les infections sexuellement transmissibles ou sur les violences sexuelles et sexistes. Pour eux, il était important d'avoir des informations qui leur soient fiables et valides, parce que beaucoup nous expliquaient qu'ils trouvaient plein d'informations sur les réseaux sociaux, ou même sur Google. À l'époque, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, mais qu'ils ne savaient pas comment juger de la fiabilité et de la validité des contenus. Ils nous ont fait un certain nombre de propositions, de fonctionnalités qui soient participatives et interactives pour aller au-delà d'une simple réception d'informations d'éducation à la sexualité. Enfin, un point qui leur est apparu extrêmement important, c'est la question de l'anonymat, puisque beaucoup de jeunes compartimentent finalement leur vie sur les réseaux sociaux de leur vie sexuelle qu'ils pourraient avoir en ligne. C'est-à-dire que si on doit penser l'éducation à la sexualité par le numérique, pour eux, il leur est apparu très important de compartimenter leur vie sexuelle sur les réseaux sociaux ou sur Internet de leur vie sociale qu'ils pourraient avoir avec leurs camarades ou leur famille sur Facebook, Instagram. Et pour eux, il était important de penser à un dispositif numérique qui soit détaché des réseaux sociaux pour préserver cet anonymat. Pour eux, il leur est apparu important également d'avoir de la sécurité et de la confidentialité. Bien sûr, ils voulaient une application mobile pour que ce soit sur leur smartphone, pour que ce soit disponible à tout moment. Et ce qui leur semblait important, c'est aussi d'avoir des ressources géolocalisées. Par exemple, je veux accéder à la pilule, à l'IVG, au préservatif, près de chez moi, comment je fais, où est-ce que je trouve les services. Il leur est paru important d'interagir entre jeunes sur ces sujets de vie affective, relationnelle et sexuelle, mais pour eux, juste être entre jeunes ne suffirait pas pour parler de ces questions-là. Il leur était extrêmement important d'avoir une diversité d'experts en santé sexuelle, conscients de leurs propres limites en termes de connaissances sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. De ces travaux est né le projet de recherche-action Sexpert qui nous a été permis. Et le but de Sexpert, c'est de concevoir, mettre en œuvre une intervention qui réponde finalement aux besoins des jeunes exprimés dans les précédentes études. Pour cela, on a conçu une communauté en ligne et des composantes d'action à partir d'une recherche participative, c'est-à-dire qu'on a fait des focus groupes de jeunes pour construire avec eux un outil éducatif sur le numérique. On a fait appel également à des sexologues, à des spécialistes de la santé sexuelle pour concevoir, mais aussi pour mettre en œuvre et évaluer la communauté Sexpert. Donc si vous allez sur Sexpert, vous avez d'abord une page publique qui explique un petit peu qu'est-ce que Sexpert, qu'est-ce que l'éducation à la sexualité et qu'est-ce qu'on trouve au sein de la communauté. Donc vous avez une note d'information, bien sûr, pour vous y inscrire, pour choisir un pseudo non identifiant, et vous avez également une validation à faire via votre boîte mail. Une fois que vous avez un compte sur Sexpert, vous pouvez y accéder et accéder au contenu de la communauté. Nous, ce qu'on vérifie dans Sexpert, on est une quarantaine de professionnels pour vérifier justement l'anonymat des participants, pour modérer tous les messages. Donc vous avez sur Sexpert un espace qui est fermé, qui est anonyme et qui est modéré, c'est-à-dire qu'aucun message n'est publié avant vérification par notre équipe. Les jeunes ont la possibilité également de développer des contenus éducatifs pour les autres jeunes, mais nous créons également des contenus sur ces sujets-là. Le but, c'est d'avoir une communauté qui soit régulière, régulièrement alimentée par des nouveaux contenus, pour ne pas avoir un outil numérique qui soit figé dans le temps. On développe des contenus basés sur les besoins exprimés par les jeunes, mais aussi par les référentiels d'éducation à la sexualité. Et parmi les référentiels d'éducation à la sexualité, il y a tous ceux qui ont été développés par l'UNESCO, mais aussi par les nouveaux programmes de l'éducation nationale. Et donc, pour les collégiens et les lycéens, par exemple, on parle d'EVARS, là où en primaire, on parle d'EVAR, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas le terme de sexualité. Mais tous ces contenus sont développés et abordent les questions, bien sûr, liées au risque, mais surtout les questions liées à une approche plus positive de la sexualité, avec les plaisirs, le bien-être, etc., etc. On a développé donc une application web qui est à la fois disponible sur ordinateur et sur smartphone et qui dispose de plusieurs fonctionnalités. On a une partie de ressources d'information où là on a développé des informations via des articles, des posts, des vidéos, des podcasts pour accéder à des contenus fiables et valides sur les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. On a développé un espace communautaire avec un forum, une messagerie. Je ne l'ai pas dit juste avant, mais on a développé aussi une cartographie des services de santé sexuelle, c'est-à-dire que les jeunes peuvent rentrer leur code postal et trouver des services de santé sexuelle proches de leur espace de vie. Donc comment accéder à un dépistage d'IST, comment consulter un psychologue, un sexologue, etc. On a ensuite un espace communautaire en ligne, interactif, avec du forum, des questions-réponses. On fait des lives, on se retrouve, nous chercheurs, influenceurs sur Twitch. Et on prévoit aussi une messagerie, puisque parfois certains jeunes veulent parler directement à un seul professionnel de santé sexuelle sur ces sujets-là. Enfin, on a développé des quiz, on a développé des sondages, et on a également un espace recherche, puisque nous, notre but, c'est de suivre finalement s'il y a une évolution des connaissances des jeunes sur ces sujets-là, et s'ils adoptent des comportements positifs en matière de santé sexuelle. On fait appel à plusieurs modes de recrutement, via des campagnes sur les réseaux sociaux, via les différents lieux de vie. Et on diffuse des flyers, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire du lien avec les espaces de vie des jeunes. Donc vous pourrez scanner ce QR code si vous avez entre 15 et 24 ans, ou si vous voulez juste voir la page publique de Sexpert. Nous, on mène plusieurs évaluations à l'INSERM pour savoir si les dispositifs numériques sont acceptables, fiables et efficaces. On essaie de savoir qui on arrive à atteindre et si c'est efficace sur les comportements sexuels des jeunes. Je pensais vous faire une illustration de la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible de cliquer sur le lien, au moins pour voir la vidéo, ou si ce n'est pas possible, vous pourrez aller sur sexpert.fr en tout cas. Donc, juste pour terminer cette présentation et peut-être avoir un temps d'échange sur ces questions-là, nous, ça nous amène plusieurs réflexions en santé sexuelle qu'on peut avoir en matière d'éducation à la sexualité. Premièrement, le besoin d'accompagner une personne dans une démarche de promotion de sa santé sexuelle de manière positive, participative, mais aussi détachée de la panique morale qu'on pourrait avoir sur la sexualité des jeunes. Beaucoup de jeunes nous expliquent. Il est très étonnant de voir comment l'adulte arrive à nous voir comment il nous culpabilise aussi de nos propres comportements alors qu'on est dans une phase de découverte. Et donc, l'accompagnement des jeunes en matière de santé sexuelle va dépendre de plusieurs facteurs. D'une part, comprendre la diversité des besoins, des attentes, des spécificités de vie. On a parlé des identités sexuelles, de genre. On a parlé aussi des... On n'a pas encore trop parlé des parcours, des situations de précarité, des différents degrés de littératie. Donc, comprendre finalement les besoins, les attentes, mais aussi les spécificités de vie de ces jeunes nous apparaît extrêmement important pour proposer des actions qui soient diversifiées. Enfin, la question des représentations liées à la santé sexuelle est un facteur majeur puisque les adolescents, les jeunes adultes, mais aussi les parents, les enseignants, tous les acteurs de la santé sexuelle vont avoir des représentations différentes en matière de sexualité. Et de fait, leur adhérence au dispositif, mais aussi leur engagement pour la promotion de la santé sexuelle va être différent. Il nous semble également important de mentionner la sensibilité du sujet et la difficulté de parler de sujets sensibles, tabous, parfois indicibles sur ces questions-là, avec la posture de professionnels qui n'est parfois pas évidente, puisqu'on doit parler de ces sujets dont les jeunes n'ont parfois même pas conscience. Certains jeunes nous expliquent qu'ils n'ont pas de besoin de santé sexuelle, puisque leur mère leur a déjà tout appris. Je sais tout de la contraception, basta. Nous, ça nous apporte d'autres réflexions, la nécessité d'avoir une approche inclusive, holistique, positive, mais adaptée en temps réel aux besoins qui peuvent être exprimés, le besoin de déceler aussi des situations qui peuvent être complexes, même si elles ne sont pas dites par les jeunes. Parler, bien sûr, de sexualité au-delà de la maladie, du risque. Et enfin, penser nos positionnements en tant que professionnels sur ces sujets, d'où le besoin de se former, s'informer, et de voir un petit peu comment on pourrait penser le numérique dans une complémentarité des pratiques. Nous, on travaille à Santé publique France aussi avec le groupe onsexprime.fr, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un dispositif qui a développé à la fois un site internet, les brochures d'ados qui ont été présentées. La brochure d'ados présentée, justement, elle a été refaite, puisque le but, c'était de penser une petite brochure qui serait un lien vers d'autres ressources en ligne pour faire le lien dans les différents lieux de vie. Et donc, ça amène finalement plusieurs projets de recherche que je vous présente très brièvement ici. Les projets de recherche qu'on met en place à l'INSERM, notamment des projets pour développer des formations à destination des professionnels du social, de l'éducation et du sanitaire pour se former aux questions d'éducation à la sexualité. On a étudié les attentes des futurs professionnels de santé pour leur proposer une formation de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On a étudié également comment les infirmières pourraient s'impliquer davantage dans l'éducation à la sexualité. On mène d'autres projets sur le handicap aussi, sur les maladies chroniques, sur le fait d'intervenir au sein des réseaux sociaux. On a aussi des projets de recherche sur les adolescents en situation de troubles psychiques, qui sont des publics spécifiques et parfois oubliés des actions d'éducation à la sexualité. Et enfin, on étudie les médias. Donc, je ne vais pas vous en parler là parce que ça serait long et on resterait ensemble jusqu'à 20h, non pas que l'envie nous manque. Mais on a étudié les séries Netflix pour savoir si elles avaient un potentiel éducatif également. Et on fait des travaux également sur les questions de transidentité qui sont assez majeures chez les jeunes aujourd'hui, avec tout l'enjeu de les accompagner et d'avoir une réponse qui soit appropriée. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Philippe Martin.